This is Radio Free Europe.
Brutos en Colombia.
Radio France Inter. Le 18-20.
Le 18-20 ce soir entre Bruxelles et Kinshasa, mais aussi en Colombie. Ce sera ailleurs dans le monde, le journal de l'international d'Olivier Pouja. 18h55, l'édito de Vincent Giray du quotidien Le Monde. Coup de gueule ce soir contre le Wallon Paul Magnette qui réclame l'exclusion de l'Union Européenne des quatre pays de l'Est, Roumanie, Pologne, Hongrie et Bulgarie. Mais tout de suite, les États-Unis.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde.
Avec ces questions qui se posent depuis deux semaines seulement, et l'investiture de Donald Trump, comment parler de cette présidence? Sur quoi s'arrêter? Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'événement au sens strict et du chaos numérique auquel Donald Trump a habitué les Américains et désormais le monde? Quel est le rapport de force exact entre les pros et les anti-Trump? Ces questions sont encore ouvertes et elles vont nous occuper, je pense, pendant longtemps. Bonsoir Sylvie Laurent.
Bonsoir.
Chercheuse à Stanford, enseignante à Sciences Po Paris, la couleur du marché, racisme et néolibéralisme. J'y arrive aux éditions du Seuil. Bonsoir Frédéric Carbone.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Vous êtes en direct de Washington. Lors de l'investiture de Donald Trump, il y a 15 jours seulement, vous étiez à ce micro, Sylvie Laurent, et vous nous disiez qu'il fallait regarder la manière dont la société civile allait réagir aux États-Unis. Deux semaines plus tard, quel regard portez-vous sur la mobilisation qui n'a pas cessé depuis?
Bien, hélas, c'est un regard qui confirme mes tristes prédictions. Les États-Unis sont plongés dans un état de précarité démocratique qui se confirme chaque jour. Depuis l'élection de Donald Trump, dont l'investiture même avait été entachée d'une suspicion d'inconstitutionnalité, on atteint là un niveau tel de précarité démocratique, même si on a le sentiment d'une tragicomédie qui fait oublier l'essentiel, que finalement, ce qui reste en effet comme garde-fou, c'est la société civile avec ses relais judiciaires. Puisque ce qui se passe là à la faveur de l'indignation populaire parfaitement légitime à la suite du décret anti-musulman, c'est que des avocats ont débarqué dans les aéroports, que de simples activistes ont saisi des juges, une première fois à Brooklyn, une deuxième fois à Seattle, pour demander simplement que cette politique scélérate, on pourrait dire, soit arrêtée. Et donc la société civile, sur le pied de guerre, avec l'ensemble des constitutionnalistes, des juristes et des avocats qui se disent tout simplement qu'il n'est pas possible de vivre dans un pays dans lequel des décrets illégaux soient adoptés et que la présidence impériale de cet homme donne à ce point un déni de l'état de droit, que ça n'est pas possible. Eh bien, l'ensemble de cette mobilisation, même si elle est minoritaire, je pense que c'était le sens de votre remarque, permet aujourd'hui de constituer la seule forme de résistance à ce qui est une série de décrets et à une pratique politique tout à fait préoccupante.
Est-ce que ces cortèges, ces manifestants, ils sont très suivis, très couverts par les médias mondiaux, dépassent les limites actuelles des mobilisations classiques de la gauche américaine?
Ah bah oui, pour ce qui est de la marche des femmes, on atteint 2 millions de personnes dans l'ensemble du pays, c'était absolument inouï. Pour le reste, ce qui est parfaitement nouveau, c'est la façon dont l'ensemble du corps juridique américain, alors ce n'est pas exactement la société civile, une fois de plus, c'est un relais parmi les spécialistes du droit public, c'est la première fois qu'il y a une telle opposition à 15 jours de l'investiture entre les hommes de robe et la Maison Blanche. Ça ne s'est jamais vu, de même que ne s'est jamais vu un président des États-Unis qui insulte un juge lorsque ce dernier lui dit que son décret est inconstitutionnel et qu'il faut... Voilà. Donc le pseudo-juge qui lui a répondu que il avait été investi par un pseudo-sénat selon les règles d'une pseudo-constitution, ce qui est assez drôle.
Ces manifestants ne sont pas toute l'Amérique. Est-ce qu'il y a moyen de jauger du rapport de force ou de l'état de l'opinion aujourd'hui, 15 jours après l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche?
Il y a quelques sondages qui nous donnent une idée assez juste. On est entre 40 et 50% des Américains qui soutiennent les décrets pris par Donald Trump. Alors, il faut savoir que c'est toujours compliqué parce que la façon dont sont rédigées les questions influence les gens. Il y a une évolution. Le dernier sondage en date donne 55% des Américains qui y sont opposés. La question est de savoir jusqu'à quel point on sait véritablement quelles sont les implications de la mesure en question, mais la moitié des Américains qui a voté pour Donald Trump continue à soutenir les politiques auxquelles il s'était engagé.
Oui, on va y venir en détail. Frédéric Carbone, d'ici là, les deux Amériques, c'est plus qu'une image, hein, avec une opinion divisée, quelle que soit la qualité des sondages. Enfin, grosso modo, c'est du 50-50.
Oui, et ces deux Amériques, ce qui est frappant, c'était le cas pendant la campagne, ça a été le cas pendant la longue période de transition où Donald Trump n'a pas fait grand-chose pour rassembler encore plus, et ça l'est encore aujourd'hui. Ces deux Amériques-là, elles ne se parlent pas, elles ne se connaissent pas, elles ne se fréquentent pas ou à peine, et elles ont effectivement deux ressentis totalement différents. Votre invité a parfaitement raison. L'Amérique qui a voté Trump est parfaitement contente de ce qui se passe aujourd'hui. Peut-être qu'on va écouter un ou deux échos de ces deux Amériques-là. Commençons par celle qui est dans la rue, parce que la marche des femmes, effectivement, la mobilisation était énorme, ce qui veut dire que les gens étaient prêts, avaient besoin, envie presque de descendre tout de suite dans la rue, d'être ensemble, de se tenir chaud. C'était frappant ce jour-là. Et puis, vous avez des cortèges quasiment tous les jours, tous les week-ends en tout cas, dans les grandes villes américaines, comme ici à Washington, avec quelque chose qui frappe là, c'est qu'il n'y a pas que les activistes, que les gens très mobilisés autour de la CLU, qui est l'association principale, ou de tous les avocats qui effectivement se rendent dans les aéroports. Vous avez des gens qui n'étaient pas descendus dans la rue depuis très longtemps, qui font des parallèles avec des périodes historiques. Ça vaut ce que ça vaut. Mais écoutez par exemple Laura Kuman. Elle a une soixantaine d'années et elle n'était plus descendue quasiment depuis les années 60 dans la rue.
Ça fait des décennies, mais me revoilà. On a manifesté quand on était jeune et nous recommençons. Quand nous étions étudiants, nous protestions contre la guerre du Vietnam. Et maintenant, je suis une mère avec des grands-enfants. Ils manifestent chez eux, moi je défile ici, et je pense que ma mère de 91 ans ne va pas tarder à venir aussi. Cela rappelle les années 30. Je me souviens, quand j'étais enfant, des gens qui avaient un numéro sur leur bras. Et j'ai peur que cet homme, qui est assez dérangé, veuille à nouveau mettre des numéros sur des bras.
Alors, ce qui est intéressant, Nicolas, c'est que quand on regarde, quand on écoute ces parallèles historiques, ces souvenirs qu'on a dans ce camp-là de l'Amérique, j'ai envie de dire, vous avez aussi la même chose de l'autre côté, du côté des gens qui soutiennent Trump. Sans doute, il y en a qui sont déçus, mais très très peu, depuis ce qui s'est passé depuis 15 jours. Moi, je suis allé voir dans un coin du Maryland, pas très loin de Washington, ou un comté ou rural où 65% à peu près des gens avaient voté Trump le 8 novembre. J'ai rencontré personne qui me tienne un autre son de cloche. Et il y a aussi ces souvenirs historiques au sens où l'Amérique, c'était mieux avant. Et Donald Trump, c'est celui qui va nous ramener à l'Amérique qui allait bien il y a quelques décennies. Écoutez par exemple Carmen Amadori, c'est une petite fille d'immigrés. Voici le regard qu'elle porte et le fait qu'elle soutient totalement ce décret bannissant, interdisant d'entrer aux États-Unis les ressortissants de sept pays.
Mon grand-père venait d'Italie et il a dû faire étape à Ellis Island. Et à Ellis Island, vous étiez contrôlés. Certains étaient détenus pendant une heure, d'autres pendant deux jours, d'autres encore pendant un an s'ils étaient malades. Donc il est très regrettable que nous ayons à faire face au terrorisme. Mais c'est le cas. Et dans ce contexte, nous devons être sûrs que notre pays reste sûr.
Un mot de réaction, Sylvie Laurent, on reste avec vous, bien entendu, Frédéric Carbone, sur les deux témoignages que vous venez d'entendre, radicalement opposés.
Oui, qui sont radicalement opposés, mais qui rappellent quand même la saillance de la rhétorique de la guerre à la terreur. C'est-à-dire que ce qui a été lancé par George Bush au lendemain du 11 septembre continue à animer cette espèce d'opposition viscérale, avec l'idée que l'Amérique est en guerre, l'Amérique est menacée par des ennemis qu'il faut à tout point éradiquer. Donc on est dans le règne d'une idéologie qui parle beaucoup. Alors ça évoque la guerre froide, ça évoque la logique de guerre. Donc ce qui est ressuscité ici, c'est l'idée que deux mondes radicalement opposés s'opposent. Le leur qui veut nous nuire et le nôtre. Et de cette vision très binaire, évidemment, on ressort des polarités extrêmement tranchées.
Vous le disiez tout à l'heure, le président Trump a rencontré avec la justice, avec ce fameux juge de l'État de Washington, son premier contre-pouvoir. Il a d'ailleurs réagi de manière virulente. Est-ce que le système d'équilibre des pouvoirs au sein de la démocratie européenne, est-ce que cette mécanique-là va tenir le coup, d'après vous ? Check and balances.
Écoutez, c'est la grande réputation du système politique américain, mais on est dans une situation parfaitement inédite. Donald Trump est un vrai démagogue. Démagogue au sens où le définissait Max Weber dans un texte de 1919 qui s'appelle « La politique comme vocation » où il disait « Le démagogue n'est pas intéressé par le pouvoir, mais par le simulacre du pouvoir et il sera prêt à sacrifier jusqu'au régime politique qu'il a fait parvenir au pouvoir pour cela. » Et ce qu'on constate, c'est que cet état de précarité démocratique dans lequel Donald Donald Trump, mais le pays a finalement assez peu de résistance institutionnelle. Le Congrès, dont on disait qu'ils allaient tous se lever comme un seul homme, ne réagit pas. L'ensemble des membres du cabinet dont je vous faisais une description colorée, ils passent tous le processus de confirmation très tranquillement et jusqu'à plus ample informé, y compris les médias, ne parviennent pas à démontrer auprès de l'opinion la nocivité de leur président.
Il n'y a pas de prise hein, pour l'instant.
Pour l'instant, c'est compliqué, mais on peut considérer que dans une véritable démocratie, ce sont les mouvements populaires et une partie de la presse et des gens de droit qui font une forme de contre-pouvoir. Monsieur Carbone parlait de la CLU, je voudrais vraiment y revenir. Donc c'est l'Association américaine pour la liberté civile, ce sont eux qui les premiers ont saisi les juges. Ce sont eux les premiers qui ont dit ça n'est pas possible, il faut aller jusqu'au point où cet homme est arrêté. Et le système américain, donc là on est un petit peu dans un récit à la Capra, c'est comment un petit juge de Brooklyn, puis un petit juge de Seattle, pas du tout un grand juge de la Cour suprême, parvient à mettre fin au décret présidentiel de l'homme qui se croyait tout puissant. Donc il y a quand même encore ça qui existe aux États-Unis, mais jusqu'aux midterms, on ne voit pas très bien comment les deux chambres, y compris pas le Sénat, parce que les démocrates sont finalement pas très virulents et ils laissent passer, y compris l'investiture de gens. C'est insensé que Jeff Sessions, le ministre de la Justice, ils ne savent pas encore s'ils vont s'opposer à la nomination du nouveau juge à la Cour suprême. Gorsuch, parce qu'il se réserve pour le coup d'après. Donc pour l'instant, les contre-pouvoirs, c'est finalement Donald Trump lui-même et son équipe qui sont leurs propres contre-pouvoirs par la série de sottises et d'énormités qu'ils commettent, à ceci près qu'une fois de plus, le pouvoir de la rue et de la justice, là, est la grande bonne surprise de ces derniers jours.
Redites-nous en quelques mots, redécrivez-nous le profil du futur ministre de la Justice, qui est un idéologue, je ne sais même pas comment le dire, enfin un idéologue de la droite dure américaine.
Alors, les deux pires sont ceux qui ont rédigé le décret anti-musulman. Un certain Stephen Miller et le maintenant célèbre Bannon, qui sont des islamophobes de notoriété publique. L'un a organisé dans son université une journée contre l'islamofascisme et l'autre recevait à la radio tout ce que les États-Unis comptent d'idéologues racistes, islamophobes et antisémites. Non, Jeff Sessions, c'est ça qui est assez formidable, qui va être donc en charge de la protection des libertés et des droits civiques, est un ancien homme politique de l'Alabama qui s'est illustré pour s'être opposé aux associations de liberté et de défense du droit de vote des Noirs, qui a considéré que les acquis des droits civiques des années 64 et 65 étaient une violation de l'esprit de la Constitution et qu'ils en demandaient finalement beaucoup. C'est-à-dire qu'on va avoir au ministère de la Justice quelqu'un qui a passé plusieurs années de sa vie à lutter contre la justice des Noirs et des minorités et des homosexuels, ce qui évidemment ne manque pas de sel.
Frédéric Carbone, pour reprendre un terme français, les frondeurs républicains ne sont pas encore nés. Hein. Sylvie Laurent en disait un mot. Il n'y a pas d'opposition parlementaire pour l'instant.
Mais non, mais parce que je rebondis sur ce que dit Sylvie Laurent. Il y a une part de politique, alors appelons ça cynisme, appelez ça comme vous voulez, mais les républicains se disent que, quel que soit le personnage Donald Trump, quelle que soit son attitude, quels que soient ses décrets, il fera avancer leur agenda à eux. Il va leur servir à faire avancer un agenda à eux. Et dans le cas de Jeff Sessions et de la question du droit de vote, on est en plein là-dedans. C'est-à-dire que Donald Trump, avec sa rhétorique, il y a 3 à 5 millions d'électeurs illégaux, de clandestins qui ont voté. Qu'est-ce que les républicains veulent faire de ça? Ils veulent faire avancer des lois qui rendent plus difficile le vote, notamment en mettant l'obligation de carte d'identité. C'est un combat qu'ils mènent dans des États depuis longtemps et que là, ils pourront faire avancer au niveau national. Ça a été le cas caricaturalement avec la Cour suprême. Donald Trump n'a rien d'un conservateur, n'a rien à voir avec Mike Pence et avec tous ces républicains qui rêvaient d'avoir à la Cour suprême un juge comme le juge Gorsuch. Sauf que Donald Trump est le véhicule de ça pour les républicains. Jusqu'à quand cela tiendra, on ne sait pas. Il n'y a pas encore de fronde. Évidemment qu'il n'y a pas encore de fronde. Mais il y a des républicains qui commencent à dire, alors il y a quelques personnages, le sénateur McCain par exemple, qui a presque 80 ans, qui a fini sa carrière, qui est un opposant quasiment permanent à Donald Trump. Et puis, il y en a certains qui commencent c'est-à-dire attention sur notamment la question du budget, sur les dépenses. Attention, le mur va coûter cher. Attention, les infrastructures peuvent coûter cher et on ne va pas non plus signer un chèque en blanc à Donald Trump. Voilà ce que dit par exemple Bob Corker, qui est un sénateur influent, qui a failli être, qui était dans la dernière liste, en tout cas des potentiels ministres des Affaires étrangères au Département d'État. Voici ce qu'il disait il y a quelques jours à la télévision.
Je ne veux pas la moindre dépense supplémentaire sur quoi que ce soit qui n'est pas financé. On entend tellement de gens évoquer des sujets qui coûtent cher et qui en même temps s'inquiètent des problèmes de revenus dans ce pays. C'est juste la recette du désastre.
Voilà ce que seront peut-être des batailles à venir, alors pas dans les jours, mais dans les mois qui viennent. On se souvient, il y a certains républicains qui se souviennent des dépenses de Ronald Reagan qui avait dit « moi j'augmenterai pas les impôts » et puis les dépenses avaient beaucoup augmenté. Donc il y a peut-être un terrain, en tout cas, mais pour lequel les républicains n'ont pour le moment pas de prise et sans doute pas de volonté de s'opposer, parce que, encore une fois, il fait avancer leur propre agenda sur certains terrains.
Et les électeurs, dernière question, Frédéric, les électeurs républicains marquent à la culotte, entre guillemets, leurs représentants?
Absolument, mais ce qu'ils voient, Sylvie Laurent parlait des midterms à venir, ce que voient la plupart des élus républicains, c'est que dans des comtés ruraux, dans des comtés de l'Amérique col bleu, Donald Trump, il a fait quoi? Il a fait 10, 15, 20 points de plus que eux. Donc voilà. Donc il est hors de question de s'opposer à cet électorat-là. Moi, je rencontrais, quand je suis allé faire un tour là encore une fois dans le Maryland, des gens qui sont des élus à des petits niveaux entre guillemets, et ils disent mais oui, nous, moi j'ai vu ce que mes électeurs veulent, et là je veux nettoyer Washington. Voilà. Ce sont des gens qui n'avaient aucune proximité idéologique a priori avec Donald Trump, mais là ils ont vu, ils ont vu à leur grande surprise Donald Trump aux primaires faire 60-65% des voix. Donc pour le moment et jusqu'au midterm, effectivement, cet équilibre-là risque d'être maintenu.
Sylvie Laurent.
Oui, je suis parfaitement d'accord et j'ajouterai une dernière chose, qui est que derrière le théâtre de guignol de ce qui se passe ces derniers temps autour de la suractivité, de la surprésence médiatique de Donald Trump, on oublie ce qu'il fait passer en sous-main. Et en contrebande, parmi ses décrets, il y a le cœur absolu de ce que veulent les conservateurs américains, la dérégulation financière, il est en train de désosser l'accord Dodd-Frank, la dérégulation environnementale. Toute une série de lois ont été passées, et surtout la réforme fiscale qui fait que les entreprises et les plus riches ne payent plus d'impôts. Vous vous souvenez, on parlait beaucoup des Bush tax cuts qui étaient l'abomination de la désolation. Si vous comparez, la réforme fiscale de Donald Trump est encore pire. Et fondamentalement, le cœur de l'idéologie républicaine, c'est moins d'impôts, moins de régulation et plus de forage pétrolier, et on est en plein dedans et on n'en parle pas, de même que Bannon vient d'être nommé au Conseil de la Sécurité supérieure et pour la première fois c'est un politique qui va aller parmi les militaires pour écouter ce qu'ils ont à dire. Donc on est dans une espèce de réforme en profondeur et de reconstruction conservatrice du pays sous une forme contre-révolutionnaire qui sied parfaitement aux élus républicains comme Paul Ryan qui n'en espérait pas tant.
Et les démocrates sont dans quel état, Sylvie Laurent?
Les démocrates du Sénat essayent de se débattre comme des beaux diables, en particulier Chuck Schumer, le sénateur de New York, mais ils sont dans une position où ils sont obligés de mesurer leurs coûts. Par exemple, la question se pose de savoir est-ce qu'ils vont jusqu'à faire le filibuster, c'est-à-dire cette procédure qui fait qu'ils peuvent faire obstruction à la nomination. Ils se demandent s'ils vont le faire pour Gorsuch, le nouveau juge à la Cour suprême, en sachant que le coup à jouer, c'est le coup pour le deuxième juge, puisque pour l'instant, on est dans un statu quo, et ils se disent, est-ce qu'on le fait maintenant, mais Trump peut nous empêcher de le faire une deuxième fois, or c'est la deuxième fois qu'il faut qu'on puisse s'opposer, et en même temps la base démocrate, les gens qui sont dans la rue demandent des comptes aux démocrates et leur demandent d'agir avec force pour s'opposer à ce gouvernement qui les révulse littéralement, donc c'est compliqué, ils sont minoritaires et ils sont pas en grande forme.
Et ils sont tenus, que ce soit les républicains ou les démocrates, par une base dont ils craignent qu'elle ne les déborde.
Qu'elle ne les déborde, je ne sais pas, ou en tout cas qu'elle leur fasse payer dans les urnes leur absence d'activisme et leur absence de volontarisme dans les politiques qu'ils mènent. En effet, les démocrates sont orphelins, en particulier ceux qui espèrent que le Parti démocrate devienne un vrai parti de gauche et une opposition digne vraiment de ce que le pays réclame. Mais là, je crois que tout le monde est un petit peu sous le choc et que les partis politiques traditionnels n'étaient pas prêts à un phénomène comme celui-ci.
Frédéric Arbonne, vous vouliez intervenir?
Oui, juste pour prolonger, ce dont vous êtes en train de parler, il faut savoir que le soir de la nomination du juge Gorsuch à la Cour suprême, il y a eu des centaines de personnes, peut-être 1 000 000, 2 000 personnes, qui sont allées devant le domicile de Chuck Schumer, qui est le chef des démocrates au Sénat, de la minorité démocrate, pour faire pression sur lui, pour qu'il résiste à cette nomination. Donc, quand on parle de pression des activistes, elle est absolument réelle. Et les démocrates, ils ont une autre question qui se pose. C'est là aussi pour les mi-termes. Comment reconquérir cet électorat col bleu qui est parti du côté de chez Trump? Donc, c'est là-dessus que joue aussi la Maison-Blanche et les Républicains. Il y a 7, 8, 10 élus démocrates qui sont, dont les sièges sont remis en jeu dans un an et demi, 2 ans maintenant, et qui auront besoin de ce type de voix-là. Donc, c'est extrêmement compliqué pour les démocrates ces temps-ci, évidemment.
Sylvie Laurent.
Oui, je confirme, mais en même temps, c'est un défi. C'est-à-dire que il faut bien dire que la victoire de Donald Trump est aussi de la responsabilité des démocrates.
De quelle manière?
Eh bien, beaucoup disent aujourd'hui qu'ils se rendent compte qu'Hillary Clinton n'était pas une bonne candidate, qu'il aurait fallu que cette dernière prenne davantage au sérieux la force que pouvait représenter la ligne d'un Bernie Sanders. Le Parti démocrate se prépare à avoir un nouveau président sous peu. Quelle sera la majorité? Est-ce que les politiques néolibérales, qui ont été quand même le cœur de la plateforme démocrate depuis des années, ne nécessiteraient pas d'être remises en cause une bonne fois pour toutes? C'est un travail d'aggiornamento intellectuel qui doit être fait au niveau local et au niveau national. Disons néanmoins que le véritable progressisme aujourd'hui, on ne le trouve peut-être pas au niveau national et des partis, mais dans les États, dans les villes, celles qu'on appelle les villes sanctuaires, la traditionnelle Californie progressiste, mais bien d'autres endroits ailleurs, qui, au niveau local, décident qu'ils seront des contre-pouvoirs parce que pour eux, ce qui s'impose, c'est cette capacité qu'ils ont à s'opposer à Washington sous la coupe de Donald Trump.
Comment ça peut évoluer, Sylvie Laurent? Je vous pose la question avec toutes les précautions d'usage. C'est très compliqué, j'imagine, d'y répondre. Mais en tâtonnant, on tâtonne tous. Comment ça peut évoluer dans les semaines qui viennent? Ça va être, d'après vous, le même rythme frénétique, chaotique de décisions politiques, de tweets, la tempête numérique?
Vous savez, certains en viennent même à se demander si le chaos actuel n'est pas en réalité une stratégie organisée de la part de l'équipe Trump, comme pour faire une espèce de fumée générale qui permet de ne pas voir les mesures dont je vous ai parlé qui en sous-main sont très très lourdes de conséquences. Pour le reste, je vous parlais des villes sanctuaires. Donald Trump vient de décider parmi ses décrets qu'il stopperait les financements fédéraux pour les villes qui prendraient des immigrés et qui donc refuseraient leur rapatriement à la frontière. C'est illégal. C'est parfaitement illégal. Donc, nous aurons à nouveau des démarches judiciaires pour mettre en question cette politique. Il a annoncé qu'il allait déporter de façon expéditive 2 à 3 d'hispaniques sans papier. Tel qu'il le présente, c'est déjà illégal. Donc, il y aura à nouveau la CLU, à nouveau des juges, à nouveau un conflit. Donc, c'est vrai, stratégie ou pas, c'est certainement ce qui nous attend pour les prochaines semaines.
Frédéric, un mot?
Oui, juste, il y a une question qui se pose quand même, c'est parce que oui, Donald Trump fait à peu près, et les Républicains le laissent faire ce qu'il veut ces temps-ci, il semble quand même qu'il y ait des divergences, des oppositions, des clans au sein même de la Maison-Blanche, et assez vite, on est à peine là encore une fois 15 jours, moi je suis frappé par le nombre de fuites qu'il y a sur les coups de fil que donne Donald Trump à des dirigeants étrangers, sur tout ce qui se passe dans des réunions, sur le fait, par exemple, aujourd'hui, ça c'est le New York Times qui le raconte, qu'il ne savait pas qu'il avait nommé Steve Bannon, on en parlait tout à l'heure, au sein du Conseil de sécurité nationale. Les fuites sont extrêmement importantes. Le fait que Donald Trump, ce qui se passe aujourd'hui avec le juge, il le ressent comme presque une frustration personnelle. Qu'est-ce qui fait qu'on m'a pas prévenu que ça risquait d'arriver? Donc, il y a une Maison Blanche qui est elle-même chaotique. Combien de temps ça durera? Je n'en sais rien. Moi, je suis extrêmement frappé, en tout cas, par les fuites de tous les côtés qu'il y a depuis le début de cette administration Trump.
Merci Frédéric Carbone, vous étiez avec nous en direct de Washington. Merci beaucoup Sylvie Laurent d'être revenue au micro d'Inter. Vous êtes chercheuse à Stanford aux États-Unis, enseignante à Sciences Po, La couleur du marché, racisme et néolibéralisme aux éditions du Seuil. Merci encore d'avoir été avec nous ce soir. Dans quelques instants, le journal de l'International.